Et comme vous avez déjà tout dit, Bini, avec les sénètes et avec tout ce qui a été dit, les habillements, les accoutrements montrent l'époque de Jésus. Et effectivement, cette parole se trouve dans la Bible et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour qu'on appelle le dimanche, l'entrée, c'est pas un dimanche peut-être, c'est un jour que Jésus est rentré à Jérusalem, mais on avait le coutume de le fêter dimanche depuis des années, et nous aussi on va maintenir pas. Mais dans la réalité, pour chercher, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comme vous lui a posé des questions tout à l'heure, nous allons essayer aussi, voilà, de nous poser ces mêmes questions et de les répondre d'une manière plus simple, le plus simple possible. Parce que les images, je sais que les enfants aiment les images, ils aiment regarder Zouzou à la télé. Et donc, notre joujou des dimanches, c'est vraiment d'essayer d'entrer dans la Bible et de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, on va lire Jean 12, versets 12 à 19, et après lire Zacharie 9, 9. Mais j'ai donné des versets bibliques à beaucoup de personnes d'entre vous, et c'est pour que vous puissiez participer à la prédication. Comme les enfants ont participé à la présidence, c'est ce qu'on appelle généralement un culte participatif. On est en train d'entraîner, d'apprendre ce que c'est un culte participatif. Et peut-être un jour, deux, trois personnes peuvent prêcher en même temps et associer pour que tout le monde puisse vivre le culte. Non pas participer au culte, mais vivre le culte en participant. Voilà, donc on va lire Jean 12, versets 12 à 19, et je vais introduire. Tous, verset 12, le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et sortit de la ville pour aller à sa rencontre. Il criait, gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus trouva un âne et s'assit dessus. Comme le déclare l'Écriture, n'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi vient, assis sur un petit d'une ânesse. Verset 16. Tout d'abord, ses disciples ne comprirent pas ces faits, mais lorsque Jésus-Christ était élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ramené dans les morts, racontait ce qu'il avait vu. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Les gens avaient appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Tout le monde s'est mis à le suivre. » Amen. Pour nous, ce matin, c'est comme si le peuple avait déroulé un tapis rouge pour le roi des rois. Est-ce que vous savez à quel moment on déroule un tapis rouge pour quelqu'un? Un star? Une star? Un président?
Un roi?
Un roi, voilà, quelqu'un, une personnalité, une autre personnalité. C'est pas pour n'importe qui. Par exemple, les présidents, quand ils sont en voyage, ils entrent dans un pays, le pays les accueille en déroulant le tapis rouge devant l'aéroport, et il y a des fanfares qui sont là, qui tonnent l'hymne national du pays, et on le reçoit avec des acclamations et des accolades, parce qu'il mérite son rang. Et effectivement, ce qui s'est passé ce jour où Jésus entrait à Jérusalem, c'est comme si Jésus vraiment était accueilli par le peuple d'Israël, comme c'était lui le roi, comme c'était lui le président, plus que le président, parce que il va prendre totalement la royauté que Dieu lui avait confiée. Le texte que nous venons de lire annonce l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Il est accueilli par une grande foule avec des branches de palmiers, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. Non seulement la foule chante à sa louange, mais il déroule un tapis rouge pour le Seigneur. Et vous savez, Auguste, le grand empereur Auguste n'a pas eu ça. Pilate, même après qu'il va le crucifier, n'a pas eu ça, ses honneurs. Et Jésus, qui est-il qui va avoir des honneurs comme ça, tapis rouge, acclamation, louange, et tout le monde chante à sa louange, Hosanna, fils de David, c'est toi le roi d'Israël. Avec leurs manteaux, leurs habits de fête, de mariage, leurs cravates, voyez, est-ce que vous imaginez, tu enlèves ton, j'enlève ma veste, que je mets une fois par semaine. Je lave proprement pour ne pas abîmer. Et je dépose devant Jésus et il pétine dans la boue. Vous imaginez à quel point les gens étaient totalement fans de Jésus. Plus que fans, ils l'adorent. Parce qu'il est grand, puissant et merveilleux. Certains même, peut-être en donnant, ils ont tout déposé devant cet après-midi pour que Jésus puisse marcher dessus. Qui a une cravate? Qui a déjà mis une cravate? Tu achètes ton bon cravate et le jour où voilà, tu le déposes devant Jésus, hop, allez, marche dessus. C'est le mien. Je suis content. Si aujourd'hui on peut imaginer ça, ça nous donne des indices pour voir à quel point les gens aimaient Jésus. Les gens aimaient le voir, les gens aimaient le toucher, les gens aimaient même qu'il marche sur leurs habits. Jésus est vraiment accueilli et honoré comme un grand roi, et cela a suscité de la jalousie au niveau des autorités. Non, mais qui est ici? C'est monsieur. On ne le voyait pas, il s'est élevé, il n'a que 33 ans. Et puis, allez, il vient, et nous, on n'a pas eu le tapis rouge. Et Pilate lui-même n'a pas eu le tapis rouge, le gouverneur n'a pas eu le tapis rouge. Et lui, il est là, tout le peuple l'acclame et l'ovationne, et allez, on déroule un tapis rouge devant lui. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, ça va changer là. Parce que c'est nous les autorités ici. Vous savez, ça peut être comme aujourd'hui, dans les pays. Imaginez, quelqu'un qui est reçu en fanfare comme le président de la République. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un rentre dans un pays, on le reçoit comme avec des honneurs du président. Comment on appelle ça? On appelle ça soulèvement populaire. On appelle ça coup d'État. Ah! Ils vont me faire coup d'État! Ils vont prendre ma place! Alors ils ont reçu un nouveau président pour l'installer. Et voici, c'est ce que les autorités juives aussi pensaient. C'est nous les autorités. C'est nous qui devons recevoir cette honneur-là. Mais pourquoi on le donne à Jésus? Jésus,
Oui, Jésus, je viens vous dire. Nous allons essayer de répondre à trois questions. Quelle est l'importance de poser des manteaux et des branches de palmier devant Jésus? Et deuxième question, pourquoi Jésus est monté sur un âne au lieu d'un cheval ou un char de guerre? Le roi, en son temps, c'est le cheval qui symbolisait le roi. Quand le roi vient dans un pays ou dans un village, il est escorté par des cavaliers et lui, il a son cheval avec un bon bonnet de couronne de roi. Ou, si c'est des temps difficiles comme aujourd'hui, c'est avec un char de guerre. Aujourd'hui, vous entendez qu'il y a la guerre en Ukraine. Vous entendez ça? Si c'était avant, il va monter en tant que président un char et avec des armées autour de lui. Il va venir comme le chef suprême des armées pour aller à la conquête, pour prendre le royaume, pour mettre la main pour gouverner, pour montrer que c'est lui le roi. Malheureusement et heureusement, Jésus n'est pas venu comme ça. Au lieu de venir en char, en fanfare, avec de l'armée à droite, à gauche, et avec des chars et des avions dessus qui essaient de voir qui est en train de poser des attentats, non, il vient tout simplement. Tout simplement, c'est un âme. Comment Jésus peut être roi pour nous aujourd'hui? Tout ça, c'est pour nous poser à la fin la question, comment Jésus peut être roi pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne peux pas mettre des branches et moi, ma veste devant Jésus pour qu'il marche, pour montrer que vraiment il est mon roi ou il est mon Seigneur. Je peux le faire, mais c'est ça ne signifie pas beaucoup de choses. Mais où Jésus veut régner en nous aujourd'hui? Et nous allons répondre à cette question. La première question, quelle est l'importance de poser des manteaux et des branches de palmier devant Jésus? En posant les manteaux et les branches de palmier, le peuple traite Jésus comme des rois. Au verset 13, le peuple veut dire simplement, c'est lui notre roi. Et ils l'ont dit explicitement, Hosanna, béni soit celui qui vient, béni soit le roi d'Israël. Ça veut dire qu'ils l'ont donné le pouvoir. Ils l'ont donné le roi, ils l'ont mis en tant que roi. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que Jésus voulait vraiment le royaume que les gens voulaient lui donner? Est-ce que Jésus voulait prendre cet empire romain et dire, voilà, maintenant, arrêtez, vous n'allez plus soumettre, nous dominer, c'est fini, je vais prendre le pouvoir et je vais mettre fin à tout ça? Non, Jésus ne voulait pas dire ça. En déposant les manteaux, le peuple crie au secours pour leur salut éternel. S'il te plaît, viens nous délivrer des mains des Romains. S'il te plaît. On va lire Marc 11, verset 9 à 11. C'est lui qui a ce texte. N'hésitez pas, prenez la parole, lisez fort pour que tout le monde puisse entendre, pour que tout le monde puisse participer. Attendez le micro pour que tout le monde puisse entendre et que peut-être via Zoom aussi les gens puissent entendre.
La foule de la tête à la fin du prophète qui est Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, Hosanna à ceux au plus haut des cieux.
Amen. Le peuple était déjà heureux de savoir que voici celui qui veut nous sauver. Hosanna, ça veut dire, s'il te plaît, viens nous sauver. S'il te plaît, viens nous sauver. Sauver où? Le salut, c'est pas juste sauver, délivrer des Romains. Oui, ils sont en train de souffrir. Mais ce que Jésus veut répondre à ça, c'est leur âme en souffrance, leur âme qui doit recevoir le salut de Dieu. Et c'est cela que Jésus est venu pour accomplir. En déposant les manteaux et les branches, le peuple accueille l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à son serviteur David. Dieu avait promis à David, comme tu m'as obéi, comme tu as été le roi de mon cœur, et que tu as marché sur mes voies sans se détourner, alors je vais susciter au temps convenable un roi parmi tes descendants, et ce roi sera un roi pas comme les autres, un roi éternel. Lui, il va régner pas 10 ans, pas 20 ans, pas 50 ans, mais éternellement. Cela veut dire que Jésus était véritablement celui qui ressemblait à son royaume, parce que lui, son royaume n'est fini jamais. On va lire le psaume 131, verset 12. Et après 2 Samuel 7, verset 16, pour confirmer cela, parce que Jésus n'est pas venu être roi comme ça. C'est quelque chose qui avait été prévu par Dieu depuis longtemps, des années. Psaume 31, verset 12.
Si tu dis comme ça ton alliance, tu me disais, et j'en sais, donc tu es fier de nous sur ma racine contre nous.
De Samuel 7, verset 16. Il dit fort, et si c'est possible, mettez-vous debout, comme ça on peut voir. Et...
ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affirmé.
Amen. Pour toujours. Cela veut dire éternellement, sans fin. Et Jésus veut simplement dire que je suis là, ce roi que vous attendiez, ce roi que la parole Dieu avait, les prophètes avaient annoncé, voici, je suis là maintenant, aujourd'hui. Le peuple accueille aussi celui qui pouvait leur apporter la paix par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Non seulement il voulait la paix physique, mais aussi la paix intérieure que nulle personne d'autre ne peut donner. Et lui, 38, verset 36 et 37.
Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des juges.
Amen.
Réellement, mon royaume n'est pas d'ici.
Amen. Il dit ici, Jésus dit clairement, mon royaume, c'est pas ici. Vous vous battez pour rien. Vous vous levez contre moi pour rien. Mon royaume, c'est pas ici. Si mon royaume était ici, j'allais mettre des anges, des milliards d'anges à gauche, à droite, devant, derrière. Ils vont me défendre. Ils vont me soulever de la disparaître. Mais mon royaume, hélas, c'est le royaume qui vient d'en haut. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à ceux qui l'acclamaient, à ceux qui l'ovationnaient, à ceux qui posaient des branches et aussi leurs habits devant lui. Cette louange à Jésus va déranger et contrarier le monde des ténèbres. Parce que le fait que Jésus va prendre le royaume, il va donner la paix. Il va cesser les guerres, les difficultés, les familles, les problèmes que nous avons ici aujourd'hui sur cette terre. Il va tout arrêter au moment venu et dire stop, maintenant c'est mon royaume qui va prendre le relais, qui va régner éternellement. Et c'est ce que Jésus veut nous proposer. Si le peuple ne l'avait pas fait, Dieu pouvait trouver d'autres moyens pour le faire. Nous le dit aussi la parole en Luc 19, verset 39 à 40. Luc 19, verset 39 à 40. Qui a ce texte? Ah, c'est Mizou. Ok. Merci. Luc 19.
Du temps, du milieu de la foule, quelques femmes déobéissantes, mettent au bras de Jésus, les écrivains, le plus eux qui étaient les bien écrivains.
Voilà, merci. Il dit, les pharisiens ont dit, taisez-vous, ne faites pas de louanges à Jésus, parce qu'on ne loue pas un homme, pour eux c'est un homme. Et donc, il dit, dites au peuple de ces terres, de ne pas faire du bruit, de ne pas l'adorer, parce que c'est pas un Dieu. Et Jésus les répond en disant, non, si le peuple de ces terres aujourd'hui, maintenant, je vais susciter la pierre, les arbres, tous les sycomores qui sont à côté pour m'adorer, m'acclamer, m'ovationner, donner mes louanges. Et cela montre que Jésus affirme qu'il est véritablement le roi des rois. Qui peut susciter les maisons autour d'acclamer, d'ovationner un homme, sinon que Dieu. Donc Jésus est véritablement fils de Dieu. Pourquoi Jésus est monté sur un âne au lieu d'un cheval ou d'un char de guerre? On a vu, premièrement, pourquoi Jésus, les gens ont déposé des branches et des habits devant lui pour l'ovationner aux âmes. Maintenant, on va savoir pourquoi il est monté sur un âne. Ah là là, un âne. Je peux vous confesser que moi, quand je faisais le CM2, je pense, l'école était loin, loin de chez nous. Ça fait 7 km ou 10 km comme ça. Pour un enfant de 11 ans, 12 ans, c'était compliqué. Mon père avait des animaux. Il a dit, bon, comme c'est loin, j'ai peur que tu prennes le vélo et que tu décasses avant le vélo. Donc, je vais te donner mon âne. Et j'avais un anneau. Et le matin, 5h du matin, je me lève, je me mets sur mon âne. Allez, quitte. J'arrive à l'école. Quand j'arrive à l'école, tous les enfants se moquent de moi. Oh là là, il vient avec son âne. Et moi, je dis, c'est rien, j'étais là, je dis, bon. C'est mon moyen de déplacement. Et pour vous dire qu'un âne, c'est pas simple. C'est le plus bas des moyens de déplacement. Et Jésus, au lieu d'aller le roi des rois du monde, au lieu de prendre un cheval avec une couronne, aller pour partir, se mettre le plus petit des moyens de déplacement, aller sur son âne. Et cela a un sens. Cela veut nous parler, nous dire que Jésus a choisi un âne pour une raison. Ce n'est pas parce qu'il nous manquait de moyens de déplacement comme nous souvent, comme on manque de moyens de déplacement, on prend le plus petit. Pour Jésus, c'est pour dire tout simplement qu'il n'est pas le roi ordinaire, comme les rois de la terre, comme un royaume de ce monde. Les royaumes de ce monde, les rois de ce monde, les présidents de ce monde, quand ils se déplacent, oh là là, le cortège, même le cortège, on ne peut pas voir, il y a des présidents quand ils se déplacent, le cortège des voitures, je ne sais pas, que font toutes ces voitures? Il y a au moins une dizaine de voitures ou une vingtaine de voitures qui se déplacent. Et on allume les gyrophares, ne vous approchez pas. Parce que c'est dangereux maintenant. Et Jésus choisit la simplicité pour nous dire que Jésus est son royaume, c'est un royaume de paix, de justice. Il ne craint pas d'être attaqué, il ne craint pas de faire du mal, que quelqu'un lui fasse du mal, parce qu'il apporte la paix. Et il veut montrer tout simplement qu'il est le roi le plus humble du monde. Laisser son trône de gloire à côté de son père et descendre sur la terre, manger avec nous, boire avec nous, souffrir avec nous.
35, verset 19 à 20, et Jean 18, verset 36 à 37, nous allons lire ces textes, et cela va nous confirmer effectivement que Jésus, son royaume n'est pas de ce monde.
Vous faisiez partie du monde, je vous aimerais parce que je vous appartiens. Et vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Si vous persécutez, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres.
Amen. Ici, il dit, Jésus avertit que son royaume n'est pas de ce monde. Si il montrait comme ça, vous aussi, attendez, soyez patients. Parce que vous aussi, si réellement vous êtes mes serviteurs, ils vous feront passer par ces choses-là, par la persécution. Jean 18, verset 36, 37. Jean qui va lire.
Mon royaume n'est pas de ce monde. Je continue. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas.
Amen. Jésus nous tire vers là-haut. Mon royaume, ce n'est pas ici, ce n'est pas maintenant où. Là où vous êtes en train de vivre la souffrance, les difficultés, mon royaume va venir, c'est le royaume céleste, c'est-à-dire avec le Père en haut. Jésus est monté sur un âme parce que son caractère, c'est la paix, c'est l'humilité et c'est le service du prochain. L'âme. On dit que l'âme n'a pas de problème. L'âme, il ne fait que servir. Il est têtu, certes. Mais ça, c'est un caractère autrement. Je peux l'expliquer autrement. Mais l'âme, c'est le grand serviteur. Mais là, quand tu lui dis, va à droite, il ira. Va à gauche, il ira. Et donc, nous voyons ici l'humilité des services que Jésus propose à ce monde. Il est venu pour servir et donner sa vie pour nous qui sommes ses enfants. Ésaïe 9, verset 5 à 6, Éphésiens 4, verset 3.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Et éternel prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées.
Amen. Le prince de paix, Jésus est le prince de paix. Éphésiens 4, verset 3.
Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix pour nous.
Amen. Donc, la paix entre nous, c'est important. La paix entre les frères et sœurs, quand on est dans une seule famille, dans une seule église ou ailleurs, où on travaille dans une seule boîte, la paix est importante parce que ça reflète le caractère de Jésus. Jésus est le prince de paix. Et entre moi et mon frère, Jésus veut qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas toujours des conflits, qui tapent, qui tapent, tu dis non, je dis oui, tu dis non, je dis non. Et là, c'est du déchirement. Et ce n'est pas le caractère de Jésus. Jésus veut donner la paix à notre monde et aussi à notre cœur. Jésus est monté sur un âne pour l'accomplissement de la parole de son Père, parce qu'il attendait, le peuple attendait, avec une grande espérance que ce roi là-bas béni qui s'appelle Jésus. Éphésiens 1, verset 18, et après on va conclure. Éphésiens 1, verset 18. Oui.
Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage.
Amen. Qu'il illumine vos yeux. Nous avons dit tout à l'heure que le peuple qui acclamait Jésus, les pharisiens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus venait. Ils n'ont pas compris pourquoi les palmes, les branches de palmier, les choses qu'ils faisaient, ils n'ont pas compris immédiatement. Même les disciples de Jésus. Il est dit dans la parole que nous avons lue, dans Jean 12, que même les disciples de Jésus n'ont pas compris tout de suite. C'est quand les choses se sont passées, ah, ils ont lu maintenant Jacques-Alinet, verset 9, qui raconte effectivement comment Jésus allait venir et comment il allait être ovationné, acclamé, reçu comme le roi des rois. Maintenant, après avoir entendu tout ça, comment Jésus peut-il être roi pour moi aujourd'hui, pour toi aujourd'hui? Comment Jésus peut être ton roi? Il peut dire non, ça c'est le temps de Jésus, c'est fini. Bon, maintenant Jésus est roi au ciel et ça suffit. Mais Jésus veut que ce royaume puisse être aussi notre royaume. Il veut partager son royaume avec nous. Dieu avait averti à David qu'un roi, pas comme les autres, viendra de sa descendance. Nous avons déjà lu ce texte. Je vais nous donner un peu de temps pour continuer sur ce verset. Psaume 132, verset 11, verset 12. Et Jésus veut apporter la paix, la consolation et la joie dans nos cœurs en nous sauvant de la mort éternelle. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27.
Je vous laisse ta terre, je vous donne ma terre. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Amen. Je vous laisse la paix, je vous dis au revoir, et je vous donne ma paix. Mais le problème est que ma paix ne se donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix à condition que. Et cette paix est éphémère. Dès que tu ne suis pas ces conditions, allez, on enlève la paix, il n'y a plus de paix, allez, on attaque. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais Jésus, lui, sa paix est une paix paisible dans ton cœur, dans mon cœur. Même les événements troublants, le monde est en situation délabrée. Mais l'Esprit de Dieu va te donner encore la paix. Tu vas dormir tranquille. Tu vas dire, Seigneur, je suis avec toi, quel que soit ce qui va m'arriver, je sais que je vais vivre éternellement avec toi. J'ai la paix éternelle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cette paix. Jésus est roi dans notre cœur. Si nous obéissons à sa parole, en l'aimant de tout notre cœur et en plaçant notre confiance en lui. Jérémie 24, verset 7 nous dit aussi également que Dieu va nous donner un cœur nouveau pour pouvoir obéir, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir être véritablement ceux qui font partie de son royaume. Jérémie 24, verset 7.
Je rendrai capable de reconnaître que je suis le Seigneur.
Amen.
Reviendront à moi de tout leur cœur, qu'ils seront mon peuple et que je serai leur Dieu.
Amen. Je vais les rendre capables. Cela veut dire que ce n'est pas nous. Mais Dieu nous donne la force de l'aimer, la force de s'attacher à sa parole, de s'attacher à ce qu'il veut pour nous et de pouvoir l'obéir. Donc, Dieu nous aime et il veut que nous puissions aussi l'aimer et l'obéir selon sa parole. Jésus est roi pour nos vies aujourd'hui si nous restons attachés à lui dans son amour. Nous allons lire l'avant-dernier texte, Deutéronome 11, verset 18 à 22. Deutéronome 11, verset 18 à 22.
Dans votre cœur, dans vos âmes, ces paroles que je vous dis,
Il les visite comme des signes sur vous-même et elles seront comme des fantômes entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que le jour des cieux le seront au-dessus de la terre.
Amen. Merci. Cette lecture et ce verset est très très important. Si vous voyez ce verset dans votre texte, mes chers petits frères, grands frères et aussi des enfants, soulignez ça dans vos Bibles. Quand on ouvre votre Bible, qu'on voit ce texte parce que c'est très très important pour nous. Il dit que d'écrire les textes partout dans vos maisons, les frontaux de vos maisons, au lieu de décrire d'autres comme ici, et foi en Dieu. Donc, il dit d'écrire partout pour réviser, pour garder dans la pensée, pour que n'importe quel lieu où nous sommes, en voyage, en nous couchant, vraiment de réciter cette parole, d'avoir cela en mémoire, pour ne pas oublier, pour obéir. Et nous avons vu ce que les enfants ont fait tout à l'heure, et les ados, les jeunes ont fait tout à l'heure. C'est aussi pour lire la parole. Vous avez récité la parole, vous avez lu la parole, et vous avez interprété la parole, et cela nous fait du bien pour ne pas oublier et garder cette parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à entrer dans la nouvelle Jérusalem avec lui. Il nous invite à entrer dans les rangs